Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Alors où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 12 de cet ouvrage qui s'intitule « Psychologie politique ». Lors de la dernière émission, nous avons analysé, après Nietzsche et Max Scheler, le phénomène du ressentiment qui fait que chaque individu, sentant une différence d'avec ce qu'il est personnellement, va se remplir de haine, de jalousie et dénigrer la vraie supériorité, en remplaçant cette vision de la supériorité ou des différences par une vision d'un nivellement égalitaire basé sur l'effort personnel, le mérite, etc. Donc les idées de Nietzsche commentées par Scheler ne concernent pas a priori le système politique de la démocratie, mais en fait, si. En effet, la pathologie de la démocratie, c'est ce que Valéry appelait l'inuidia democratica, c'est-à-dire la haine démocratique vis-à-vis de toute différence, de toute hiérarchie, de tout privilège, etc. Alors voyons en quoi cette idée est moderne et voyons en quoi cette pathologie caractérise justement notre modernité. Voyons les rapports qu'il y a aujourd'hui entre le relativisme et le subjectivisme. On sait par exemple à l'époque moderne que c'est l'être humain qui est lui-même la source des valeurs. Depuis Spinoza par exemple, on le sait, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. Voilà ce que dit l'éthique de Spinoza. Et donc le système axiologique ça veut dire qu'il y a rapport aux valeurs, repose sur les valorisations du sujet, de l'individu. Mais que les valeurs justement viennent de l'individu ne signifie pas forcément que toutes les valeurs s'équivalent, parce que les natures de ceux qui posent les valeurs sont différentes. L'imposture moderne est de confondre relativisme axiologique et équivalence objective des valeurs. Lorsque les valeurs, comme autrefois, étaient fondées dans l'être, le problème ne se posait pas. Il y avait une hiérarchie objective entre les valeurs, conforme au modèle qui leur préexistait. Ce modèle était théologique ou religieux, il était transmis par l'éducation et imposé d'en haut. Il y avait donc une extériorité ou une présence, je dirais, ontologique des valeurs. Mais depuis que les valeurs apparaissent comme des émanations du sujet valorisant, les choses se brouillent. En effet, du relativisme, on peut passer au subjectivisme et donc à la plus grande confusion. C'est donc le règne des représentations personnelles ou de la fantaisie individuelle, des conceptions du monde, des images du monde qui sont toutes différentes et qui s'affrontent. Heidegger montre cela dans « L'époque des conceptions du monde ». C'est une partie de « Chemin qui ne mène nulle part ». Les nihilistes russes disaient « Une paire de bottes vaut Shakespeare ». Vous voyez, là, il y a une équivalence absolue des valeurs. Et un proverbe dit chez nous « Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». « De gustibus non disputandum ». Des goûts, on ne discute pas. Bon, face à cette diversité, l'époque moderne a accepté comme critérium, comme étalon, comme norme de jugement, la moyenne statistique. Cette moyenne statistique va assurer un consensus universellement humain. Le minimum humain admissible devient le principe fédérateur. D'une part, on admet comme équivalente la profusion inépuisable des jugements, des opinions, des valorisations dans tous les domaines. Et d'autre part, comme il faut bien qu'il y ait normes ou règles quelconques dans le gouvernement des sociétés, on va s'en tenir au fameux consentement universel. Sous la forme, par exemple, de la loi de la majorité, et du gouvernement des sondages d'opinion, les fameux sondages. Hein. Or, le sondage, je dirais, préférera toujours Barabbas à Jésus. Lorsque Pilate demande à la foule « Qui voulez-vous que je vous libère ? Barabbas le brigand ou Jésus ?» La foule répond « Libère Barabbas » et condamne Jésus. Vous voyez ? Donc, c'est le premier sondage d'opinion, en quelque sorte. Hein. Le sondage d'opinion valorise l'emportement par rapport à la réflexion, et c'est sa façon d'être profondément humain entre guillemets. Hein. Le consentement universel, là aussi je mettrai des guillemets au consentement universel, revient à poser comme norme le minimum intellectuel ou affectif commun à tous, le commun dénominateur naturel mesurable par statistique. Comment n'importe qui, interrogé à brûle-pourpoint sur n'importe quoi, peut-il dire, sans réfléchir, quelque chose de sensé ou d'un minimum d'intérêt ? En fait, ce fameux consentement universel ou l'universellement humain qui désigne aujourd'hui pour chacun le summum, le sommet de la valeur, manifeste psychologiquement, et on revient à notre ressentiment, un sentiment de haine vis-à-vis des valeurs authentiques. Ces valeurs authentiques expriment au contraire toujours une distance prise avec ceux qui se contentent d'être universellement humain. Elles impliquent une transcendance des valeurs. Hein. On ne s'attache aujourd'hui qu'à ce qu'on peut atteindre. Par exemple, on identifie toujours maintenant la valeur de quelqu'un et sa notoriété, tout simplement parce que chacun peut effectivement espérer se faire connaître hein, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la notoriété dispense de la supériorité. Andy Warhol disait bien « Bientôt chacun dans sa vie aura son quart d'heure de célébrité hein. ». Donc il y avait autrefois une émission qui s'appelait « La nuit des héros hein, », une émission de télévision. N'importe qui pouvait être un héros. Hein. Voyez aussi les émissions du genre Love Story ou Star Academy, la télé-réalité, voilà. Hein. La notoriété est essentielle. Hein. La supériorité, finalement, ne compte pas. Voyez aussi la devise du loto. On commence par gratter et on finit à la télé. Hein. Effectivement, c'est bien d'une fin qu'il s'agit. On finit dans le sens péjoratif du mot. Voyez aussi les réseaux sociaux, hein, ce qu'on appelle la e-réputation, la réputation numérique, si vous voulez, Facebook, etc. Hein. C'est donc la métrocratie, tout ce qui se mesure, nombre de likes, etc., qui sanctionne la valeur. Hein. Je suis frappé toujours par la haine du savoir véritable que manifestent certaines personnes à qui on voudrait apprendre quelque chose ou dont on voudrait informer l'esprit sur tel ou tel point. Ces personnes peuvent se replier sur elles-mêmes comme des huîtres qui se referment et j'appelle ça l'odium scientiae. L'odium scientiae, la haine du savoir. Il y a aussi la haine des intellectuels, les intellos comme on dit. Hein. On dit que dans certains d'un collège, l'intello, celui qui réussit, est considéré comme un paria, voilà, hein, l'intello. Donc voilà, réunis tous les caractères des sociétés modernes. La métrocratie, je le répète, ou le règne du quantitatif, hein, la médiocratie, ou le règne de la moyenne, sur fond d'inuidia democratica, de haine démocratique, sur fond de ressentiment. Dans les cultures traditionnelles, au contraire, existent des représentations symboliques de l'inégalité des dons naturels. Pensons en milieu chrétien à l'idée de grâce, par exemple, à l'idée de révélation aussi, et à la valorisation de l'ésotérisme auquel elle conduit. La majorité des hommes n'ont pas accès au sacré, certains doivent croire ce que les autres voient. Pensons aussi à l'ascèse des saints qui les situent en marge de leurs contemporains. Et on voit que dans ce contexte, la perception des valeurs les plus hautes dépend d'une compétence fondée sur la familiarité avec un domaine qui n'est pas accessible à tous, et non pas d'une simple sanction du consentement universel. Donc au modèle de l'homo democraticus ou de l'homo aequalis, l'homme démocratique, l'homme de l'égalité des sociétés modernes, on pourrait opposer celui de l'homo hiérarchicus, l'homme hiérarchique, si vous voulez, des sociétés classiques. Hein. Alors attention, il s'agit d'expertise, de véritable. Non, je ne parle pas des castes en Inde, hein, ça c'est un exemple caricatural, pas du tout. Hein. Il s'agit au contraire de la connaissance de certains domaines, une certaine expertise. Pour la grâce, bon, j'ai parlé du Magnificat lors de la dernière émission, paix sur la terre aux hommes qui ont la faveur de Dieu. Hein. Donc pour la grâce, elle est réservée à certains. Par exemple, lors du procès de Jeanne d'Arc, l'évêque Cochon lui avait posé la question perfide, Jeanne, es-tu en état de grâce? C'était une question piège, parce que si elle avait répondu qu'elle n'y était pas en état de grâce, eh bien, elle était accusée d'imposture, et si elle avait répondu oui, alors elle était accusée de présomption. Alors elle a eu une magnifique réponse, jaillie du Saint-Esprit pour le croyant, ou jaillie des profondeurs de l'inconscient pour l'agnostique, si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre, si j'y suis, Dieu veuille m'y garder. Donc voilà, la grâce, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est dont on n'est pas sûr qu'on la possède. Dans toutes les cultures, elle existe. Dans l'islam, c'est la baraka, hein, la grâce de Dieu, vous voyez. Donc, mais tout cela est bien loin de nos sociétés démocratiques. Pardon. Donc, on a aujourd'hui l'idée d'une démocratie radicale, comme le disait Habermas. Hein. C'est une idéologie aussi du tout se vaut, hein, comme on dit en anglais anything goes, hein, n'importe quoi convient, où il y a aussi des implications esthétiques dont nous parlerons à propos du dernier chapitre de mon livre. Mais on oublie que quand tout peut arriver, rien n'est intéressant. Hein. Alors, l'idée d'un ésotérisme ou une espèce d'aristocratie dans les cultures traditionnelles existe. Par exemple, voyez, dans l'église orthodoxe, il y a deux espaces, le lieu de la cérémonie sacrée et le lieu des fidèles, séparés par l'iconostase. Même dans la cathédrale de Montpellier, que vous connaissez tous, le chœur est séparé de la nef par une grille. Hein, et dans le temple hébreu, hein, seuls les prêtres avaient accès au Saint des Saints et pas la foule. Hein. Donc, lorsque le prêtre dans la messe catholique romaine commence sa cérémonie en disant « intro ibo ad altare dei », c'est-à-dire « je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu », cela implique qu'il est le seul à s'y avancer, hein, et que la foule, justement, doit croire ce que lui va voir dans sa fréquentation du sacré. Mais aujourd'hui, lorsque l'on fait la messe face aux fidèles, hein, cet « intro ibo ad altare dei » qui vient du psaume 42, hein, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, n'est plus du tout pertinent. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé de cette expression en latin, l'invidia democratica, la haine démocratique. Hein. Eh bien, je vais maintenant faire un petit résumé qui la concerne. Hein. Voltaire disait « ce n'est pas l'inégalité qui est un grand malheur, c'est la dépendance ». Or aujourd'hui, l'égalitarisme, l'esprit d'égalité extrême, dont parle Montesquieu dans l'esprit des lois, et le nivellement axiologique, le nivellement des valeurs, caractérisent nos sociétés. Et un grand esprit l'avait bien remarqué au XIXe siècle, c'est Alexis de Tocqueville. Voici ce qu'il dit dans « De la démocratie en Amérique », partie 4, chapitre 3. « La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. Il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque les conditions sont inégales, tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l'uniformité générale. La vue en devient plus insupportable. À mesure que l'uniformité est plus complète, il est donc naturel que l'amour de l'égalité croisse sans cesse avec l'égalité elle-même. En le satisfaisant, on le développe. Là réside ce qu'on appelle le fameux paradoxe de Tocqueville. Quand les inégalités sont très grandes dans une société, on est moins choqué par elles que quand elles diminuent. Moins il y en a, plus les inégalités restantes choquent, hein, et donc sont condamnées, voyez. Alors, voyons la différence entre Montesquieu et Tocqueville. Montesquieu, dans l'esprit des lois, pensait que La vertu, c'est-à-dire le civisme une fois abandonné, chacun ne pensant qu'à ses propres affaires, s'installait dans les démocraties une anarchie qui était le fruit de l'individualisme et de la corruption, et puis donc ce qu'on appelle une ochlocratie. Alors, O-C-H-L-O, puis cratie, hein. L'ochlocratie, ochlos, c'est le gouvernement de la populace et une agitation démagogique. Puis, quand le démagogue a flatté le peuple se livre à un nouveau tyran, et la démocratie est balayée par ses propres excès. Il y aurait restauration du despotisme après l'intermède démocratique. Ensuite, le despote se rendrait impopulaire à son tour, serait renversé ou tué, se réinstallerait la démocratie qui dégénérerait à nouveau par apparition de l'esprit d'égalité extrême ou de l'égalitarisme en anarchie, ochlocratie, démagogie, etc., etc. Bref, pour Montesquieu, il s'agirait de cycles qui se répètent. Donc, d'un certain point de vue, cette vision cyclique est moins déprimante que celle de Tocqueville. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien, voici la vision de Tocqueville. La vision de Tocqueville est bien différente, à mon avis, bien beaucoup plus pessimiste. Pour Tocqueville, il n'est pas sûr que les démocraties modernes soient menacées par l'anarchie et la turbulence. Au contraire, elles sont guettées par l'apathie et le désir d'une vie grégaire, d'une vie en troupeau. Grex gregis, c'est le troupeau, hein. Et dans cette vie, il est égal à chacun d'être médiocre si tous le sont également, et pourvu au moins que tous le soient. Et c'est l'État qui garantit cette égalité. L'homme démocratique aliène sa liberté à l'État sous condition qu'il le nourrisse, c'est l'État-providence, hein, le welfare state des anglo-saxons, par exemple le maître du chien dans la fable de La Fontaine dont j'ai déjà parlé dans une émission précédente, le loup et le chien. Le maître du chien nourrit le chien, mais le chien est esclave, il a autour du cou la marque de son collier. Alors pourvu que l'État garantisse à chaque individu que les autres n'ont rien de plus que lui, à ce moment-là, on va se soumettre à l'État. Voici ce que dit Tocqueville, hein, très, très beau passage. Cette haine immortelle, voilà, haine, inuidia democratica, la haine démocratique, cette haine immortelle est de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l'État. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. Passage très profond et assez impressionnant. Et en un sens, la délégation des pouvoirs à l'État, c'est une démission totale. Il n'y a plus d'autonomie, ni de civisme ou de vertu au sens de Montesquieu dans un tel abandon. Il n'y a plus d'honneur et de dignité. On préfère le bonheur à l'honneur ici, hein. Il y a bien sûr une égalité absolue entre les hommes, mais dans une commune dépendance, dans une égale servitude. Et il n'y a plus de liberté, car nulle part il n'y a plus d'égalité que dans la tyrannie ou le despotisme absolu. tous les sujets sont égaux dans l'esclavage. Il y a un chemin vers l'esclavage que Hayek a analysé dans un livre qui s'appelle « La route de la servitude ». Je pense aussi au livre de Zinoviev que j'ai déjà mentionné, « Le communisme comme réalité », où Zinoviev nous dit que le communisme ne perdure que parce qu'il, justement, assure à chacun que le voisin n'a pas plus que lui. Voilà. Hein. Donc, mais Nietzsche avait déjà prévu cela dans Ainsi parlait Zarathoustra, lorsque Zarathoustra fait le portrait du dernier homme, le dernier homme qui est déchu, hein, pour dégoûter la foule, justement, de l'image qu'elle voit, mais la foule, au contraire, veut être ce dernier homme. Voici ce que dit Nietzsche, « On ne devient plus ni pauvre ni riche, c'est trop pénible. Qui voudrait encore gouverner? Qui voudrait encore obéir? C'est trop pénible. » Point de berger et un seul troupeau, chacun veut la même chose, tous sont égaux, quiconque est d'un autre sentiment va de son plein gré dans la maison des fous. Tous sont égaux, hein. Alors, au fond, si la vision des moindres différences entre les hommes leur est si insupportable, pourquoi, dans l'attribution des responsabilités, ne pas se fier, non pas aux compétences ou à l'expertise, mais au hasard ou à la loterie, qui est l'égalité suprême? Borges, dans sa nouvelle « La loterie à Babylone », c'est une nouvelle qui figure dans le recueil « Fiction », imagine de façon extrêmement prémonitoire un régime politique où toutes les charges sont tirées au sort. Alors peut-être que la roue de la fortune, par exemple, pourrait remplacer les élections. Aujourd'hui, les jeux de hasard augmentent en popularité et ils augmentent quand l'apathie générale augmente. Pour faire une grille au tiercé, il fallait encore un minimum d'efforts intellectuels. Mais pour gratter un billet de loto, il n'a pas besoin d'efforts intellectuels. Mais c'est ce que veulent les gens. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de la sélection à l'entrée de l'université. Les étudiants sont contre la sélection par le mérite. Est-ce qu'ils préfèrent la sélection que l'on a pratiquée les dernières années, qui était la sélection par tirage au sort, hein? C'est évidemment totalement démocratique, mais catastrophique, puisque l'expertise ou la compétence n'était jamais respectée. Je pense par exemple à l'idée théologique de prédestination, qui est souvent... La prédestination, c'est une loterie divine, hein, puisque Dieu, dans l'Exode, dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Hein. » Donc c'est une injustice dont on bénéficie, si on a la grâce. Hein. Bon, l'idée de prédestination a servi pour certains peuples d'idéologie contre un peuple qui les a servissés. Par exemple, en Hollande, dominé par les Espagnols, hein, à un moment, le peuple était pour l'idée de prédestination par ressentiment contre ceux qui le dominent, puisque de toute façon, on niait justement que le sort de qui que ce soit soit mérité. Vous voyez, hein. Alors, je vais terminer cette réflexion en évoquant quelques remèdes. Quelques remèdes. Comment faire pour que les démocraties ne soient pas ainsi détruites? Eh bien, dans les démocraties modernes, c'est l'État, par ses représentants, qui devient le berger des citoyens. À nouveau, il y a une conception pastorale du pouvoir et il y a une hétéronomie, c'est-à-dire la loi est extérieure à l'individu. Alors, que faire? Sans doute, il faudrait développer les contre-pouvoirs face à l'État. La presse, les corporations, les syndicats. L'État se nourrit du prestige qu'on lui donne. En France, l'État existait bien avant la Révolution, dans la monarchie absolue par exemple. Et d'après Tocqueville, dans l'Ancien Régime et la Révolution, le jacobinisme et le centralisme révolutionnaire n'ont fait que poursuivre l'étatisme de Louis XIV. Hein. Donc, comme le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, hein, il faut diviser ce pouvoir. Par exemple, sauvegarder la séparation des pouvoirs dont parle Montesquieu. Exécutif, législatif et judiciaire. Hein. Assurer aussi l'existence du contrôle ou du contrôleur, comme le disait Alain, hein. Le philosophe Alain, le droit d'interpellation à la Chambre des députés. Développer aussi le civisme, la responsabilité individuelle contre la lâcheté et l'anonymat grégaire. Dire qu'il faut augmenter le nombre de policiers ou les armées davantage ne doit pas dispenser chacun d'intervenir dans la mesure de ses moyens quand il voit quelqu'un attaqué dans la rue. Détourner la tête, dire « ce n'est pas mon affaire », ce n'est pas la meilleure solution. Car un jour, nous pourrons souffrir nous-mêmes des policiers qui seraient surarmés. Les Anglais n'arment pas les policiers et comptent davantage sur le civisme. Il faut aussi éviter le fichage, l'ubiquité de Big Brother, hein. Songez que nous donnons à un fonctionnaire notre numéro de sécurité sociale et par la même occasion, nous lui révélons notre âge, etc. Alors, ne parlons pas de la carte bancaire, du téléphone portable, de la géolocalisation par GPS, etc., où nous donnons notre intimité à des instances tierces. Hein. L'État aujourd'hui tient le rôle que naguère tenait Dieu. L'État prend le relais de Dieu. Il sait tout, il voit tout. C'est un État Argus. Hein. Nietzsche disait « c'est le plus froid de tous les monstres froids ». Alors ce n'est pas parce qu'on a choisi ses maîtres, par les élections par exemple, qu'on n'est pas esclave. La nature du maître, disait Tocqueville, m'importe moins que l'obéissance. Dans la démocratie moderne déresponsabilisante, les citoyens sortent de leur niche tous les 5 ou 7 ans pour désigner leur maître et aussitôt après ils y rentrent. Il faudrait qu'ils s'occupent davantage de leurs propres affaires et donc d'eux-mêmes. Mais trop souvent, chacun ne cherche qu'à s'étourdir et à se fuir. Par exemple, dans la démocratie que nous connaissons dans la Ve République, la France est une monarchie élective. Le président est un monarque républicain. Et des pays où la monarchie réelle existe sont plus démocratiques parce que cette monarchie réelle n'est que symbolique. Je pense au Royaume-Uni ou à l'Espagne, etc. Hein. Donc, l'État est ambigu. Hein. Valéry disait « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Eh bien, je vais vous laisser sur cette belle formule ambiguë. Hein. Il faut un peu d'État, hein, mais il n'en faut pas trop, voilà. Hein. C'est une morale, si vous voulez, de la mesure sur laquelle je peux terminer cette réflexion. Eh bien, la prochaine fois, nous parlerons de l'esthétique de la modernité, nous acheminerons vers la fin, justement, de cet ouvrage que je vous ai proposé comme matière à réflexion. Voilà, passez une bonne semaine, au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.